Vous écoutez
RMC.
RMC.
Paris, par exemple, n'était jamais la ville de foot. C'est toujours Marseille.
J'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. Et ça, ça va pas.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC. L'after, la seule émission en direct, 7 jours sur 7 à la radio. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast avec ce soir Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Lionel Charbonnier, bonsoir Lionel.
Bonsoir à tous.
Évidemment, on va revenir en longueur sur ce 8e de finale entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Marseille qualifié, vainqueur 2-1 du Paris Saint-Germain. Première victoire de Marseille en Coupe de France face au PSG depuis 1991. Ça fera donc date. On va prendre le temps d'analyser tout ça. On vous attend nombreux supporters marseillais et bien sûr supporters parisiens. Le PSG sort comme la saison dernière dès le stade des 8e de finale de la Coupe de France. On parlera également ce soir de Lyon qualifié face à Lille. Ce fut laborieux. Laurent Blanc qu'on écoutera également en conférence de presse. C'est passé au tir au but pour les Lyonnais. Puis les autres 8e de finale, Nantes, Toulouse, Annecy, Rodez, Grenoble qualifié pour l'écart. Et les infos du jour également au programme de l'after. After exceptionnel, on est ensemble jusqu'à minuit et demi. Sachez que à partir de minuit et demi jusqu'à 1h30 du matin, le retour de la libre antenne avec Nico Villas et Thibaut Giangrande. Vous nous appelez donc au 3216. Le hashtag RMC là est sur Twitter et l'application RMC Sport Direct Studio pour envoyer vos commentaires. C'est parti pour les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, on commence avec toi.
Victoire largement méritée pour l'OM au terme d'un très bon match, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que dans tous les compartiments du jeu, l'OM est supérieur au Paris Saint-Germain ce soir, et surtout au milieu de terrain où j'espère que certains comprendront que j'ai toujours raison avant les autres, mais que ça vient et qu'on ouvrira les yeux sur Rongier Verretou, largement meilleur que les milieux de terrain tous autant qu'ils sont au PSG. Et puis le troisième point, parce que c'est le cœur du jeu, c'est là où c'est important, c'est là où on met le pressing. Bref, troisième point sur le match, parce que c'était également un très bon match dans l'après-midi, on en parlera en fin d'émission, mais il faudra en parler. Là, pour le coup, ça va faire beaucoup de bien à Lyon, même s'ils méritent pas forcément dans le jeu leur victoire, mais en même temps, Lille est en train de m'énerver parce qu'ils ont cette fâcheuse habitude de donner le bâton pour se faire battre, parce qu'à force d'être au-dessus, quand tu gagnes pas, c'est soit tu as de la suffisance, soit tu fais pas ce qu'il faut.
Lionel, tes 3 points.
Bah, je vais rejoindre Daniel 12 ans après, voilà, c'est mérité. Mérité, victoire méritée, c'est mon premier point. Et mérité de quelle manière aussi, parce que franchement, c'était une vraie régalade. Enfin, moi, je me suis régalé beaucoup plus en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été largement maîtrisée par les Marseillais. On pourra revenir dans le jeu avec un jeu un peu hybride de une intelligence de jeu, une adaptation de Rongier qui m'a franchement c'est pour moi c'est l'homme du match.
Je dis que c'est un super milieu de terrain, on me rionnait parce que il y a un joueur au PSG qui est soi-disant meilleur.
On pourra refaire la comparaison.
Non mais moi j'ai le temps d'avoir raison moi.
Et pour mon troisième point vite fait, je pense sincèrement que le PSG, pour progresser, pour être bon, meilleur en Coupe d'Europe, a besoin de ce genre de match tous les week-ends.
Le week-end, ça va être compliqué, mais
tous les week-ends, il leur faut ça pour
Lionel,
progresser.
Le PSG,
excuse-moi Daniel,
on a de plus en plus cette année.
C'est l'alerte, c'est le moment pour vous inscrire, vous qui nous écoutez, oui. Repartir avec vos places pour le match PSG FC Bayern 8e de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes mardi soir. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer foot au 7-32-16, foot au 7-32-16. C'est parti. Lionel, tes 3 points, t'as fini? Ça fait le troisième point. Ok, autant pour moi. Allez, vous nous appelez, supporters du PSG au 32-16, supporters marseillais également. Les gars, étonnamment, alors, après ce match, hein, c'est 95 minutes, il y a une logique à voir Marseille se qualifier, mais presque une logique même avant ce match. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on pouvait imaginer avant même ce 8e de finale de Coupe de France, par rapport à ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines, par rapport à l'intensité marseillaise qu'on imaginait dès le début de la rencontre,
ça, ouais.
La dynamique également, et ce PSG, j'allais dire patibulaire, mais presque, pour citer un grand auteur. On pouvait l'imaginer, ce scénario, finalement. C'est pas une immense surprise.
Absolument. Au vu des matchs récents, la dynamique du PSG, la dynamique de l'OM, qui avait été un peu entachée par le match de dimanche soir, parce que Marseille avait affiché les vertus habituelles.
Mais elle n'avait pas cette équipe-là.
Il y avait deux éléments qui perturbent profondément le pressing et l'intensité des Marseillais. Donc tu fais bien d'insister immédiatement sur ce point. je reprends néanmoins sur les vertus marseillaises des dernières semaines, tu te doutais qu'ils allaient faire ça et que de toute façon ils n'allaient pas changer parce que c'était le PSG. Le seul truc, et effectivement c'est aussi parce qu'on a un peu vu ça dimanche, c'est de se dire ils pressent tellement, ils se déséquilibrent tellement, on en revient à ce qu'on disait dimanche, que forcément si t'as des attaquants un peu habiles pour prendre l'espace, pour mettre une belle frappe, une belle passe, ça peut faire mal. Et quand t'as en face t'as Neymar, Messi, même quand ils sont moyens comme ce soir, ils peuvent toujours t'inventer un truc, lancer je sais pas moi dans l'espace un Mendes, un Hakimi qui est bon en plus depuis plusieurs semaines. Le doute, il résidait là, en fait. Il résidait que là, sur la capacité du PSG à profiter de l'espace. Et évidemment, tout le monde a dû penser à un moment que si Mbappé avait été là, il y a quelques espaces qui auraient été mieux exploités par les Parisiens.
Bien évidemment.
On sait de toute façon que c'est l'arme du PSG. Il n'y en a pas d'autre dans ce club. Il n'y a que Mbappé. On se tue à le répéter, les gens ne veulent pas toujours l'entendre, mais il n'y a que lui. Sans lui ce soir, et avec un OM au complet, je reviens à ce que tu disais, à savoir... capable de presser partout, sans baisse d'intensité à certains postes, comme il y avait dimanche.
Ah ouais, ils ont même
on
fait
a
du,
vu effectivement ce qu'on
du
attendait.
Un contre un,
Marseille supérieur, même dans les 1 contre 1, ils n'avaient pas peur. Même Neymar ont tenté des percées, parce que Neymar et Messi, ils ont tenté les percées, mais ils ont buté sur des Marseillais vaillants qui voulaient ressortir toujours les ballons, qui au milieu ont abattu un travail incroyable, parce que milieu de terrain, c'est bien de faire des petites babales et des fameuses sorties de pressing.
C'est la grosse
mais
différence.
Mais le milieu de terrain, c'est aussi une zone de jeu où tu dois travailler, créer. Il y en a qui doivent travailler. Et il se trouve qu'à l'OM, ils sont même capables de faire des passes vers l'avant, ceux qui travaillent. Je pense à Rongier, Virtu et Guendouzi, qui n'avait pas été bon sur ces derniers matchs et qui a fait un très gros match ce soir, Guendouzi. Bravo à lui. Évidemment, bravo à toute cette équipe de l'OM qui a vraiment été au-dessus. Ouais.
C'est difficile de... Et c'est pas normal, même presque, j'ai fait une erreur de sortir Rongier du lot parce que tous ont été vaillants. C'est pas bien ce que j'ai fait. Mais j'ai été obligé d'en parler parce qu'il était dans un rôle Rongier hybride ce soir. Et donc, il s'est adapté, il a eu cette intelligence de jeu, de pouvoir s'adapter, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il y a quand même, quand on regarde les deux équipes, il y a quand même, entre l'OM et le PSG, quelque chose d'incroyable et de différent, c'est que le PSG, dans l'intention de jeu, il n'essaie pas de tuer dès la première passe, il n'essaie pas cette verticalité dont parlait Daniel, au contraire et notamment ça vient soit du milieu de terrain, soit en tout cas dès la récupération pour les Marseillais, la première intention, c'est jouer vers l'avant. Je donne et je demande. On a même vu Gigot continuer de donner, demander. Il s'est même retrouvé avançante à un moment donné avec quelqu'un d'autre qui prend son qui va compenser son le fait qu'il est dézoné et tout ça. Il y a tout ce puzzle est un puzzle marseillais qui se met en mouvement.
Aussi des risques, hein, on l'a vu.
Même toutes les pièces viennent s'imbriquer les unes quelle que soit
c'est même assez impressionnant parce que souvent c'est sur le fil du rasoir, sur les passes et tout.
C'est très fatigant et on a vu ce soir que quand tu joues contre le PSG, il faut absolument les empêcher de jouer très haut.
Tout le monde l'a compris, Lionel, Lens, ils ont fait la même. Rennes, ils ont fait la même.
Et c'est pour ça que
tu les empêches de jouer, ils ont un énorme problème.
C'est pour ça que le PSG a besoin de matchs comme ça, a besoin d'équipes
de plus en plus en Ligue 1.
Et t'avais raison, quand tu disais, il y en a de plus en plus, et tant mieux.
Regarde,
parce que ça
Noël,
va, ça devrait les
Noël,
faire progresser.
Depuis Noël, troisième équipe qui rentre un peu dans l'art, troisième défaite.
Bien sûr.
Voilà,
on commence par Marseille, justement, les gars.
Tout ce qu'on voit du PSG, toutes les carences, tout ce qu'on dit à longueur de semaine sur les deux attaquants qui sont cramés, ils sont capables de fulgurance, mais il n'y a plus rien en eux. Il n'y a plus le très haut niveau. Et aujourd'hui, tu prends le match de ce soir, il n'y a pas, en 10 ans, mais je me souviens des soirées où je disais, mais il n'y a même pas un Marseillais qui peut s'asseoir sur le banc du PSG. Combien de fois j'ai dit ça? Et ça agaçait les Marseillais qui disaient ouais, t'exagères, il y en a au moins un.
Mais combien
il y a Payet.
Par exemple, ce soir, t'en mets combien?
Ce soir, il n'y a pas un Parisien titulaire dans l'équipe de l'OM. Il n'y en a pas un. C'est ça le drame.
Hakimi peut-être, Nuno Mendes aussi peut-être.
Hakimi, ça voudrait dire à la place de Klaus, qui est très bien, attention. Mmh. Mais Hakimi, ok, je veux bien peut-être si tu veux. Nuno Mendes sur le côté, ça dépend quel genre de défense tu as. Mais dans le jeu et au niveau des attaquants, le drame absolu du PSG, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Parisien que je mets titulaire à la place d'un Marseillais. C'est ça, c'est inimaginable de dire un truc pareil.
Après, il y a quand même un contingent de Marseillais qui pouvait éventuellement prétendre une place sur le banc du Paris Saint-Germain.
Mais ça n'existait pas, ça ne devait pas exister.
C'est là où tu vois que Mbappé est un mec extraordinaire. La dernière fois, je disais que j'avais pleuré quand je l'avais vu, il m'avait sorti les larmes parce que ce qu'il fait, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand il est pas là.
Je rappelle que Paris a été battu par Lens Rennes avec Mbappé aussi.
Oui, mais d'un autre côté, ces joueurs-là, que ce soit, et là-dessus, je rejoins pas trop Daniel, malgré qu'il ait raison dans 90% de ce qu'il... Enfin, je suis d'accord avec lui dans 90%, mais c'est que Messi et Neymar avec Mbappé ont un rôle complètement différent. Et donc, ils peuvent jouer beaucoup. Ils sont libérés. C'est-à-dire que Mbappé
focalise... Ils peuvent lui donner les ballons, déjà. Au moins, ils ont quelqu'un à qui donner les ballons.
Mbappé focalise tellement les adversaires... Que les deux autres, après, ils rayonnent.
Coach Courbis, si vous écoutez la soirée plutôt sur RMC, n'a pas compris le choix de Galtier de titulariser Vitinha en numéro 10. On va en reparler.
Mais la vérité...
Commençons par Marseille, Daniel.
Mais la vérité, pour répondre à Roland, je comprends ce qu'il veut dire. Mais si ce soir, tu joues avec Etiquité et t'enlèves un milieu de terrain, tu te fais encore plus manger. Malgré l'inutilité de Vitinha, qui a donné l'impression de pas être là. Bon. Mais au moins, on va dire qu'il a couru, c'était une présence.
Ouais,
si tu n'as même pas ça, le milieu, moi je pense que tu te fais dérouiller la gueule.
Je n'ai pas pu récupérer beaucoup de ballons quand même, ça, Vitinha.
Il faisait les courses dans la zone. Là.
Après, c'est toujours facile de parler après. Alors Roland l'a dit avant, on était d'accord là-dessus. C'est vrai que tu peux t'attendre en première mi-temps à te faire bouffer, à avoir un gros pressing des Marseillais parce que Daniel l'a dit, tout le monde le voit. Les Marseillais vont pas changer leur jeu parce qu'ils vont jouer contre le PSG, ils restent là-dessus, c'est la méthode Tudor, ça marche. Les joueurs sont à 200% avec leur coach, ils adhèrent au discours, ils le font. Donc tu sais que tu vas subir. À partir du moment où tu sais que tu vas subir, tu te dis, allez, peut-être qu'en gardant un mec devant en pointe, capable de prendre la profondeur. Il y en a qu'un, c'est Ekitike. Après, effectivement, tu peux peut-être, à partir du moment où tu mets Ekitike devant, tu fais reculer Neymar.
Ce qui va te changer la face d'un match.
Ça peut te changer la face. Alors,
on sait même pas ce qu'il fait au PSG, ce joueur.
Honnêtement, Ekitike, là, je l'ai vu jouer, je l'ai vu rentrer. J'ai franchement du mal.
Franchement, c'est dur.
Il joue avec une caisse à outils qui n'est pas la sienne. Il essaie des choses, il surjoue, et c'est pas lui.
Gardien sur le PSG. On va commencer par Marseille. On a beaucoup d'appels de supporters parisiens et marseillais. On va commencer par l'OM. Tiens, je vous lis quelques déclarations là au micro de nos confrères de Beansport, diffuseurs ce soir. Tudor qui dit: ce peuple mérite ce genre de nuit spéciale. C'était un très bon match. Les gars ont vraiment tout donné sur la pelouse. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. L'ambiance est fabuleuse. Voilà pour Igor Tudor. Et puis Valentin Rongier qui dit: on est ravi de passer au prochain tour. La Coupe de France est un objectif. Rennes, maintenant Paris, nos supporters méritaient cette victoire. Mehdi est avec nous, 32-16 supporters de l'Olympique de Marseille. Salut Mehdi et bienvenue.
Salut l'équipe.
Salut
bonsoir
Mehdi.
Bonsoir à tous les gars, j'ai presque plus de voix.
T'étais au stade ou pas, ou même pas?
Je suis fou les gars, je vous jure, c'est une soirée de fou. Certes, c'est que la Coupe de France, mais on est fou. Là aujourd'hui, en plus de ça, j'ai senti monter l'effervescence autour du stade, parce que moi je travaille autour du stade, je suis infirmier. Il y avait des bouffons de partout, c'était le bordel. Je me dis bon, j'espère que ce soir on va pas prendre une clim. Mais les gars, on a dominé de la première. Là, vous parliez beaucoup de Paris, je comprends, parce que bon, c'est quand même une contre-performance de leur part, surtout avec le match qui se profile, là, celui du Bayern, parce que la situation, elle est chaotique pour eux en arrivant sur ce match du Bayern, surtout avec la prestation qu'ils ont donnée ce soir. Mais les gars, on peut parler de la prestation de l'OM, de la première à la 90e. Là, j'en discutais au standard, si j'ai deux petites secondes, en fait.
T'as le temps, vas-y.
Mais on peut sortir des individualités. Mais moi, celui à qui j'ai envie vraiment de tresser des louanges, c'est à Igor Tudor. Parce qu'au final, si on regarde, ils ont joué selon les principes qu'on nous a présentés.
Ben oui, dimanche, parce qu'ils ont perdu contre Nice, qui a été très opportuniste. Il y avait déjà sur les réseaux et les grands spécialistes qui voulaient déjà l'enterrer, tu penses?
Je suis complètement...
Ah là 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 là. C'était il y a 3 jours seulement. Qu'est-ce que j'ai pas entendu sur Tudor, mon Dieu?
C'est clair.
Non, après, c'est vrai. Le cadeau fait à Payet, je suis désolé pour lui. C'est vrai que ça, c'était à mettre à son débit. Oui, c'est vrai. Il a fait une erreur de compo au départ. Ça, c'est certainement vrai. Mais bon, ok, il fait une erreur. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'il a amené au Vélodrome? Qu'est-ce qu'il a amené dans ce stade? Le feu à chaque match, un état d'esprit incroyable. Quand t'es supporter du PSG, tu vois jouer l'OM aujourd'hui, mais t'as honte. Moi, je veux bien, tu sais. il y a le chambrage entre supporters et évidemment tu souhaites toujours que le PSG perde et les supporters du PSG souhaitent toujours que l'OM perde. Mais quand t'es vraiment aussi faible que le PSG aujourd'hui, que tu vois jouer l'OM, si t'aimes un tout petit peu le football, juste, évidemment tu souhaites pas qu'il gagne, bien sûr que non, mais juste tu tournes la tête par respect, par dignité, tu dis. Je tourne la tête, tu dis oui, c'est vrai. Tu le dis doucement, mais tu dis c'est vrai que vous jouez super bien en ce moment. Bah,
Daniel, comme le PSG,
c'est vrai que vous jouez super bien.
Je rends la parole à Mehdi, vas-y Mehdi. Ah.
Daniel, je suis complètement d'accord avec toi et je vais être
comme toi, j'imagine que tu peux pas te permettre de te foutre de la gueule de Mbappé si tu l'as vu à la Coupe du Monde ou pas. Tu as du respect pour ce mec-là, évidemment.
On aime le foot, on supporte nos clubs, on aime le foot. Il y a des matchs qu'on a joué contre Paris où on en a gagné un, on en a perdu des fois vraiment à l'arraché. Mais là, en fait, la fierté, c'est d'avoir donné du football, d'avoir donné de l'émotion. L'eau au stade, là, mon regret, c'est de ne pas avoir été au stade ce soir parce qu'il y a dû avoir une émotion de fou. Il y a dû avoir une soirée de fou. C'est ça, on vibre pour ça, pour les émotions. Et là où je te suis complètement, Daniel, parce que je sais que tu es supporter de Paris et je sais que tu es un peu dépité de ce qui se passe dans ton club en ce moment, c'est que il n'y a pas d'émotion à Paris. Et je les regarde, les matchs de Paris. Il n'y a pas d'émotion. Et je n'ai pas envie de tirer de conclusions ou d'aller sur des analyses bizarres ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour ça. Mais il manque ça. Il manque l'émotion. Après, pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais il manque ça. Et là, à l'OM, cette saison, on a ça. On a ça. Et on est fou de ça. On est fou. On vit pour ça. Je vous jure, la ville, elle était folle aujourd'hui. Elle était folle. On s'est régalé. Je n'ai même pas envie de parler tactique de ce là. C'est de la
l'émotion,
on veut
bien sûr, je comprends, il a raison. Je comprends parce que l'OM, c'est ce qu'ils affichent avec Tudor, c'est avant tout de la générosité, c'est avant tout du plaisir, du kiff. C'est je sais pas, même toi, même Payet dans le couloir avant le match, tu ne peux pas douter de sa sincérité quand il sait que c'est fini pour lui. Il va voir les joueurs un à un, il les prend dans ses bras.
Et à
honnêtement, je ne peux pas douter de sa sincérité.
Le nombre de joueurs sur les paillettes après la qualif qui l'ont amené avec eux devant les ultra-marseillais.
C'est aussi pour ça que c'est important quand Tudor, on dit il a fait un cadeau à Payet. Mais peut-être qu'il s'est fait un cadeau lui-même à son équipe. C'est-à-dire que si tu sors complètement Payet, que tu l'exclus complètement, le mec n'a plus le même raisonnement à l'intérieur du vestiaire. Et ça, c'est hyper important. Il y a ce que tu vois sur le terrain, mais il y a aussi ce que tu vois à l'entraînement, ce que tu ne vois pas à l'entraînement et ce que tu ne vois pas dans
le
vestiaire.
Le chemin de Tudor en 6 mois, les gars.
Et garder ces mecs-là tout le temps près du groupe, proche du groupe, c'est un leader de vestiaire. Il reste leader de vestiaire.
Allez, on va prolonger Lionel.
Qu'il soit remplaçant.
On va prolonger sur Marseille. On parlera du PSG également en détail tout à l'heure. On fera une évaluation aussi. Vous pouvez nous appeler, supporter marseillais, supporter parisien. On est ensemble. L'after jusqu'à minuit et demi ce soir, plus la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Mehdi, je te remercie.
Merci les gars.
Bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur
soirée,
RMC.
Bonne soirée, ciao les gars. Merci.
Et nous reviens dans 47 secondes exactement. Vous écoutez l'After RMC 23h27. À tout de suite.
RMC. Jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
RMC 23h28 avec Daniel Riolo et Lionel Charbonnier. On est ensemble jusqu'à minuit et demi. Marseille s'est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant le Paris Saint-Germain 2-1. On parlera du PSG dans quelques minutes, bien sûr. D'abord, on poursuit sur l'Olympique de Marseille. Messieurs, vous pouvez nous appeler, supporters de l'OM au 32-16. Vous êtes très nombreux au standard, supporters parisiens également. On vous attend au 32-16. Marseille, je le disais, alors, beaucoup d'émotions sur le direct studio, beaucoup de messages de supporters marseillais comme Mehdi à l'instant, parce que c'est un traumatisme qui n'est pas lavé, c'est 10 ans de traumatisme, 11 ans de traumatisme. Le Marseille n'avait plus battu le PSG au Vélodrome depuis 11 ans. Donc c'est un événement pour les supporters marseillais.
Il y a beaucoup
de Marseillais. Il y a le résultat, certes, mais il y a aussi la forme. Il y a le fond, la forme. Dis-moi, tout est réuni ce soir, Lionel.
Non, par rapport à ce que disait Daniel tout à l'heure, et il avait parfaitement raison. J'ai entendu aussi beaucoup de Marseillais dire le PSG, ils sont au-dessus, il y a rien à dire, ils sont au-dessus de nous pendant un certain
temps. Pas cette saison.
Non. Oui. Pendant un certain temps, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à avant-hier. Là, maintenant, c'est différent parce que ils ont pris conscience que ces Marseillais, maintenant, Marseille se rapproche de plus en plus de cette image qu'ils avaient du PSG et le PSG. Et puis il n'y a pas que les Marseillais, il y a toutes les équipes qui aujourd'hui font du mal au PSG, qui jouent off, qui jouent fort, qui jouent leur jeu, qui jouent avec leurs moyens.
Et ça, je vais te dire, Lionel, il y a deux raisons à ça. d'une, les équipes n'ont plus peur de jouer et ont mieux travaillé physiquement pour pouvoir livrer ce genre de match-là. Donc, il y a cet état d'esprit qui a changé. Et en face, il y a un PSG qui ne cesse de s'affaiblir.
Et qui a redonné confiance à ses éventuels concurrents.
Qui a de moins en moins de qualité intrinsèque, qui a de plus en plus de joueurs fake, qui sont toujours considérés comme par des grands joueurs, par les incultes. Mais le niveau a largement baissé.
Je pense pas que ce soit des joueurs fake.
Si, moi je pense il y a des joueurs dont l'apex s'est passé depuis longtemps. Il y a des joueurs qui sont passés du côté de l'autre côté de la colline depuis très longtemps.
Ah, de l'autre côté de la colline.
Mais à un moment, il faut renouveler. Si tes joueurs cadres sont tous de l'autre côté de la colline, que ce soit Ramos, Marquinhos, Verratti, Neymar, ils sont tous passés de l'autre côté depuis très longtemps. Ouais, mais ils ont tous été bien meilleurs à un moment. Aujourd'hui, c'est terminé. Ils ne peuvent plus faire les efforts contre des matchs où il y a une telle intensité. C'est fini. Ils ne peuvent plus le faire, ça.
Moi, je pense que certains que tu as cités sont capables de faire les efforts.
Je vois plus.
Après, je pense qu'ils se sont installés.
Sur un match comme ça,
ils se sont, parce que ils se sont installés dans un système où ils dominaient tellement. Là, maintenant, faut qu'ils apprennent. Tu dois grandir de
avec
tes défaites. C'est pas la première défaite.
Avec
c'est à eux
de l'OM qui leur sert de coach.
Non.
D'ailleurs, t'as vu,
individuellement déjà.
C'est le hasard de la réalisation, mais sur le deuxième but, Malinovski, t'as plan de coupe sur Christophe Galtier qui sert le point.
Bon, évidemment, il sert pas le point, il fait genre
le point est serré, mais évidemment que non, il fait pas le but de Marseille. Drôle. Voilà, c'était insolite.
Moi, je pense que c'est une prise de conscience individuelle des joueurs qui doivent se dire c'est pas normal qu'on se fasse bouger avec le standing qu'on a. C'est anormal. Et là-dessus, je pense qu'ils sont tombés là-dedans.
T'as entendu l'interview de Verratti à la mi-temps?
Non.
Verratti est arrivé.
Il avait le sourire. D'ailleurs.
On a pu constater effectivement ces grandes progrès en français. Il dit la question du journaliste. Le match est difficile. Vu la première mi-temps, le match est difficile malgré l'égalisation. Il s'était fait quand même bien marcher dessus. Non, c'est pas difficile. C'est vous les journalistes qui pensez toujours que ça va être facile pour nous.
C'est ce qu'il a dit.
Preuve que il est complètement à côté de la plaque. D'abord, il joue par rapport à ce qu'on dit de lui. Déjà, donc c'est très bizarre comme attitude de penser que, et en plus, c'est comme s'il ne se rend pas compte des difficultés qu'ils éprouvaient dans la première mi-temps, à ne pas pouvoir sortir un ballon, à être étouffé par ce pressing-là, par une équipe que normalement, ils doivent dominer, ou en tout cas, ils ne doivent pas se faire dominer de cette façon-là. Surtout à une semaine d'une échéance européenne.
Oh non, mais c'est trop tard là. C'est pas possible.
Tu te dis, c'est la révolution du mois d'août, le recrutement fantastique de Luis Campos, monsieur, je sais tout, monsieur, j'ai les meilleurs réseaux du monde. Pardon, mais bon, voilà. Maintenant, on va attendre le miracle contre le Bayern. Sans Mbappé, je vois pas comment ce miracle est possible. Avec Mbappé, tous les miracles sont possibles.
Il faut un double miracle.
Si t'as une équipe qui se met un peu au charbon, tu lui donnes un ballon parfois.
Je pense que
contre le Bayern, tu l'as fait il y a deux ans, en 2021, le miracle.
Ça peut passer. Ça peut passer contre le Bayern, tout ça. Mais bon, disons, quand tu dois.
Je voudrais qu'on finisse sur Marseille quand même, d'accord? Qu'on parle encore de l'OM, on aura le temps de parler du PSG. Farid arrive au 32-16 également, supporter du PSG dans un instant. On a parlé du collectif marseillais. Quels sont ceux qui ce soir vous ont impressionné individuellement côté Marseille? Tu t'es parlé de Valentin Rongier.
Moi, c'est Rongier.
Tu disais tout à l'heure en régie, Daniel, on parlait ensemble, on regardait la fin du match. Rongier est un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1.
Voilà. Mais quand même, là, vous pouvez pas dire. Dès qu'il est arrivé à Nantes, j'ai parlé de ce joueur et de sa progression. Je sentais qu'il verrait tout et également un bon milieu de terrain. J'en avais parlé longtemps aussi quand il était en Italie, je parlais de ce joueur très 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 sous-estimé. Guendouzi a fait un gros match ce soir, parfois un peu brouillon sur les dernières semaines, un peu moins en jambes. Mais là ce soir, il a été très bon. Gigot, les mecs comme ça.
Tu peux prendre les trois derrière. Kolasinac, Gigot et
Jacques Chancel
Mbemba.
Il a été extraordinaire. Ils ont tous été bons. Au minimum, même si tu peux avoir dans l'idée qu'ils sont un peu limités ou un peu inférieurs par rapport à certains standards européens, mais ils compensent par une telle générosité
qu'aucun
supporter de l'OM ne pourra en vouloir à un joueur marseillais parce qu'il dit le mec me donne tout.
Exactement.
Quand tu donnes tout.
Exactement.
On peut pas. C'est-à-dire, quand tu vois Neymar, Messi, tu vois bien qu'il donne pas tout. Messi, il a tout donné avec l'Argentine.
Techniquement, tu vois ce que ça veut dire.
Tu vois ce que ça veut dire que tout donner pour le meilleur joueur du monde et de l'histoire. Tu vois ce que c'est. au PSG, il donne pas tout. Neymar, tu vois bien ce que c'était à une époque. Tu vois bien qu'il ne donne plus tout. Il a la tête ailleurs, c'est terminé. Et ils sont pleins comme ça.
Mais parce que chacun
il faut
pense
tourner
que
les pages.
Ils arrivent
il y a des
tous
pages
comme ça. Tu viens de les citer individuellement et chaque individu pense que, eh ben, ils vont réussir individuellement à faire quelque chose et à passer les étapes comme ça.
Les gars. Christophe Galtier en conférence de presse. On écoute le coach du PSG.
Un très gros pressing de la part des Olympiens sur l'entame du match. On est arrivé à sortir. À un certain moment, on avait de l'espace dans la profondeur, on l'a peu utilisé, mais malgré ça, nous sommes créés aussi des situations. C'était très très ouvert en première période. Malheureusement, en deuxième période, on prend un but un peu stupide sur une touche pour nous dans nos 20 derniers mètres. Et à partir du moment où Marseille a marqué ce deuxième but et qu'ils se sont mis après dans un bloc bas avec beaucoup de transitions, c'est là où on a énormément pêché. On s'est pas créé de situation en deuxième période, du moins très peu. Il y avait des positions de tir. On n'a pas pris l'initiative du tir face à une défense très, très regroupée. Et voilà, donc évidemment qu'il y a de la déception pour nous, pour le club, pour nos supporters, mais on se doit de regarder vers l'avant puisque les enchaînements de matchs vont faire que on va pas s'éterniser sur évidemment cette élimination, même si il faudra analyser plus précisément, voir un peu ce que l'on peut améliorer, notamment dans la profondeur et dans la présence dans la surface adverse, et voir l'état de forme des uns et des autres dans cet enchaînement de match.
Il a juste à améliorer, que Mbappé revienne très vite. C'est la seule amélioration qu'il peut souhaiter.
À la deuxième réponse de Christophe Galtier à venir en conférence de presse.
Je crois qu'en première période, évidemment que Marseille a cette qualité-là, pas que cette qualité-là, hein, mais a cette qualité-là, et que ça peut faire contraste par rapport à nous, à nos profils de joueurs et notre manière d'évoluer. Mais je répète encore une fois, lors de la première période, les équipes ont été rapidement coupées en deux, il y avait des espaces. Malheureusement, on n'a pas profité des espaces. On a été peut-être malheureux sur une ou deux situations. On n'a pas profité des espaces qui nous étaient proposés. Après, à partir du moment, je répète encore une fois, où le bloc marseillais s'est mis bas, là, on a énormément souffert. On a été pauvre sur un plan, sur un plan offensif. On s'est créé très peu de situations. On nous a bloqué énormément nos latéraux, et dans le jeu combiné, dans la densité, c'est pas passé. Après, Marseille a ses caractéristiques. On a les nôtres, et la saison va être faite de cette manière-là. Il faut évidemment.
Allez, on en reste là avec Christophe Galtier pour lire toute sa conférence de presse sur site RMC.
Il y a deux trucs qui me dérangent.
Est-ce que tu veux les garder? On fait une pause. Ah, okay. Tu les notes, tu les as en tête, Lionel, et tu veux les livrer dans un instant dans l'after avec Daniel Riolo. Et toi, Lionel Charbonnier, reste avec nous pour nous appeler au 32-16, supporter parisien, on vous attend. Farid, on ne t'a pas oublié, tu attends depuis quelques minutes, tu seras là dans l'after à nos côtés dans quelques secondes. RMC 23h37. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Un an de retard.
L'after RMC 23h39, un soir d'OM Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que Marseille a éliminé le PSG en huitième de finale de Coupe de France. On parlera des autres affiches en toute fin d'after. On est ensemble jusqu'à minuit et demi avec Lionel Charbonnier, Daniel Riolo, Farid. Dans un instant, Lionel, les deux points que tu voulais aborder.
Oui, il y a deux choses qui m'ont un peu fait mal aux oreilles. Pourtant, j'adore Galtier, mais il dit en première mi-temps, on avait de l'espace dans la profondeur, on l'a pas utilisé. Mais t'as pas les joueurs pour utiliser l'espace dans la profondeur. T'as pas mis l'équipe pour. Donc ça, c'est quand même.
Il
n'y
avait pas un choix non plus très profond. Kitiqué aurait pu être.
Oui. Tu lui dis qu'un truc avec Kitiqué, tu restes devant à la limite et tu cours après le ballon.
Il est à l'envers.
On lui met et court Forest et vas-y va mettre un
c'est
but.
La preuve qu'il a pas confiance en lui encore.
Il faut pour l'instant Kitiqué, il a que ça et qu'il le fait très bien et qu'il le fasse, qu'il se cantonne à ça, qu'il fasse pas des gris-gris à la Messi, à la Neymar et tout ça. Ça c'est pas dans sa caisse.
Quoi, l'attaquant de Reims quoi.
Ben voilà.
Il faut se calmer.
Ça c'est la première chose.
Le PSG est obligé de se dire. Il fallait qu'Ekitike soit au Vélodrome. Bah, on est en train de parler non, de quoi?
Si tu veux, tu disais,
on est en train de se dire, de il manquait et qui tiquait, quoi. Mais jamais j'aurais pas
pensé. Mais tu as vu le bon touche, Daniel?
Je pensais jamais que j'allais dire une phrase pareille mais en parlant
Daniel,
du PSG.
Quand on dit, il manquait et qui tiquait, il manquait un joueur avec cette capacité à prendre cette vitesse.
Je préfère que tu dises ça.
La profondeur et tout ça.
Je préfère que tu dises ça.
Mais en l'occurrence, c'est qui tiquait. Il y a personne d'autre. Ils l'ont pris. Il est là. On va pas faire ça.
Il manque l'attaquant qui voulait prendre et qui n'ont pas réussi.
C'est le problème. Il est là. Le problème, il est que tu te retrouves avec quatre gamins sur le banc et l'ancien attaquant de Reims dont tu te dis « Ah, s'il avait été là !»
Mais Daniel, on analyse le problème du jour dans la composition de départ quand j'entends aujourd'hui.
Il n'y a pas de problème du jour, il y a un problème depuis un an. Ça fait deux ans qu'il y a un problème qu'il faut mettre à moitié les mecs dehors.
Aujourd'hui, quand j'entends, il y avait de l'espace, on a pas, dans la profondeur, on n'a pas su, on n'a pas pu l'utiliser. C'est pour moi parce qu'il n'y avait pas un joueur comme Ekitike qui est capable que de courir et d'aller vite. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et ma deuxième analyse, ils se sont mis dans un bloc bas et on n'a pas su en profiter. Ils se sont mis dans un bloc bas quand à partir du moment où le PSG
Marseille
et en deuxième mi-temps ils étaient dans un bloc bas aussi et là tu fais rentrer Ekitike, c'est-à-dire que quand t'es dans un bloc bas,
l'homme au début à Reims,
et quand t'es dans un bloc bas tu fais rentrer un joueur
Carlos Bianchi
est
en moderne.
Donc quand t'as besoin de la profondeur tu fais rentrer des mecs, tu mets des mecs qui sont bons dans les petits espaces, et quand t'as besoin des petits espaces tu fais rentrer un mec qui est bon dans la profondeur. Là-dessus, moi, pour moi, il y a eu erreur de Christophe, il s'est trompé.
J'accueille Farid, son analyse supporter du PSG au 32-16. Salut Farid.
Ouais messieurs, bonsoir.
Bienvenue dans l'after Farid.
Bon, bah écoute, je vais rebondir un petit peu sur tout ce que tu as pu dire, Daniel, depuis des semaines. Parce que c'est pas un moment, je t'adonne Max pour en parler. Bah écoute, tu as couvert beaucoup de choses. À savoir, déjà, j'étais assez surpris qu'on trouve encore certaines personnes arriver à défendre Neymar. Mais bon, ça fait maintenant depuis des années.
Tu rigoles, sur Twitter, il y en a à l'appel. Je dois avoir un algorithme spécial. Ils arrivent tous sur moi,
Daniel,
fans de Neymar.
On en a parlé ensemble. Je t'ai dit depuis le début que ce mec-là, c'est une arnaque. Ça, je le confirme. Et ça. La deuxième arnaque que j'ai découvert maintenant à partir d'aujourd'hui, ben c'est Galtier. Galtier, eh ben écoute, je croyais que Pochettino c'était le pire coach qu'on ait eu. Ah ben non, ben écoute, ben tu vois la palme elle revient à Galtier parce que au niveau coaching, je comprends plus rien au football. Franchement, c'est imbuvable ce qu'il nous sort. En plus, il arrive à sortir limite. Malheureusement, c'est triste à dire, je pensais pas de le dire. Un mec comme Danilo à la récup, c'est presque le meilleur soldat de l'équipe, il t'arrive à le sortir. Je ne comprends pas qu'il ne sorte jamais Neymar de l'équipe, je dirais dans un match comme celui-ci.
Ah non, mais ça, il l'a dit qu'il le ferait jamais. Hein. Neymar, bah ouais, Messi, ça sort pas parce qu'on sait jamais.
Mais sinon, tactiquement,
on sait jamais.
Bah vas-y, finis.
Daniel, quand on en a discuté déjà, tu sais quoi, je t'ai dit, ce gars-là, c'est un consultant, c'est pas un coach. Ah ça, c'est sûr qu'il enfume tout le monde avec ses petits sourires, ses petits tapots derrière. Mais effectivement, quand tu regardes aujourd'hui...
Non, et surtout, tout le corporatisme de mes confrères qui le défendent parce que c'est un coach français.
Oui, ben écoute, eh ben j'en veux plus. Alors, tu vois, honnêtement, je fais partie des gens. Je lève la main, et ben écoute, tu me reprends. Compo, c'est lui. Tu me jettes. Je crois que c'est la plus mauvaise équipe du PSG sous l'ère QC.
Ça, je suis d'accord
c'est
avec toi.
C'est la plus faible équipe.
Ouais, donc, c'est ça. Ce qu'on a dit également sous Pochettino, hein. Il y a pas
Farid,
si longtemps que ça. Hein.
Est-ce que tu disais ça au début
sous
de saison?
Sous Pochettino, je suis désolé, t'es allé en demi-finale de Ligue des Champions, hein.
Oui, Farid. Mais je pensais que c'était Pochettino, tu vois, par rapport au contenu des matchs. C'est vrai, par rapport au contenu. Mais là, j'ai trouvé pire. Et puis en plus, il a un côté, effectivement, il fait des analyses qui sont pertinentes, on dirait un consultant, mais pas un coach. Il réagit en rien, il n'y a aucune réaction. Déjà, il n'agit pas, mais en plus, il ne réagit pas. Donc c'est double peine pour nous. Et il ne te propose rien. C'est nul, c'est inquiétant, c'est la pire équipe.
N'oublie pas le 4-4-2 losange.
Oui, 4-4-2 losange. Tu sais quoi,
selon coach, idée des années 80.
Je crois non, que c'est vrai. Je regardais le match.
Mais tout est un gag, en fait.
Je regardais le match avec mon fils et il m'a dit, effectivement, on est devenu une entreprise de divertissement. Bah, je lui dis, effectivement, mais pour divertir, faut-il déjà faire plaisir? Il me dit, non, tu vas au parc, tu regardes tes Neymar, tes Messi, tu prends ton menu Messi, tu passes prendre tes goodies.
C'est ça, exactement. Tu vas manger ton hamburger pas chaud et ton hot dog à 15 balles.
C'est quoi, c'est que malgré les résultats, quand tu veux parler des princes, la boutique, elle est pleine.
Évidemment, la boutique, elle est pleine.
Le match était pourri. Je te coupe. Farid, je te rends la parole. Farid, dans un instant, excuse-moi. Igor Tudor est en conférence de presse. Daniel va pouvoir traduire.
Di paragonare, però, penso che oggi abbiamo fatto. Veramente tanto bene visto l'avversario
e énormément de belles choses aujourd'hui
che abbiamo giocato dopo due giorni. che dove abbiamo fatto 120 km.
On a fait 120 km aujourd'hui et on a joué il y a deux jours sur la même intensité.
Una roba che i giocatori devono essere orgogliosi.
Et les joueurs doivent être orgueilleux et fiers de pouvoir fournir ce genre de prestations.
Ça pourrait l'être, ça pourrait être un des meilleurs matchs. J'aime pas forcément faire des comparaisons, mais c'est vrai que c'était un très bon match.
C'est le son de la traduction, parce que Daniel l'a déjà assuré avant même la traduction officielle.
Je savais pas qu'il y en avait une,
c'est pas grave. D'ailleurs, c'est moins précis.
En revanche, je sais pas à quoi il voulait comparer le match, parce qu'on a pris au moment où il a dit comparer, mais j'ai pas entendu à quoi il comparait.
Par rapport à Nice, je pense.
Ouais, ça doit être
par rapport à Nice dimanche soir.
Dimanche, ouais.
On va écouter une deuxième réponse de Igor Tudor. Oh, j'ai le choix, hein. Lionel parle italien, Daniel parle italien.
Et enfin, est-ce que la grande différence entre les deux mi-temps, c'est qu'en première mi-temps, après le but, votre équipe a un peu reculé, alors qu'en seconde période, on a l'impression qu'elle a mieux résisté, qu'elle a continué un peu plus haut, avant de finalement reculer dans les dernières minutes de jeu?
Allora, la prima domanda sul suo spirito, se si rende anche conto che avete messo fine, posto fine a una serie di invincibilità
per il Parigi
a Marsiglia che durava da 12 anni e poi se ci è sembrato che magari se anche la sua analisi del primo tempo verso la fine poco prima dell'intervallo dopo il gol siete magari indietro mentre nel secondo siete riusciti ad andare comunque avanti a spingere per poi verso la fine comunque.
Pourquoi c'est plus long l'italien toujours que le français?
Alors, on a rajouté des trucs. Non, non, début, parce qu'on n'a pas entendu le début de la question.
Si, questa tradizione mi hanno detto che non lo sapevo.
Donc, on lui a appris cosa, que, effectivement, ça faisait 12 ans que l'OM n'avait pas battu le PSG.
Un avversario forte oggi che abbiamo affrontato.
Donc, évidemment, que je me rends compte qu'on avait face à nous un très gros adversaire.
Di stare alti 90 minuti perché ti abbassano, perché sono
et jouer haut pendant 90 minutes, évidemment, on savait que ce serait compliqué parce que forcément, à un moment, ils te font reculer.
Quando eravamo bassi, abbiamo anche concesso poco, ecco, questo è importante.
Mais quand on a été en position basse, finalement, on n'a pas énormément concédé.
Che abbiamo fatto contro loro, di tutto, no? Di come giochiamo, di come difendiamo, e questo alla fine è quello che conta, no?
Voilà, pour Igor Tudor, on va pas aller plus loin.
Ah, bah là, on n'entend plus, là. Hein.
C'est pas grave.
Alors, je lis pas sur les lèvres.
C'est pas. Vous pourrez lire ses déclarations sur le site rmcsport.fr. Voilà, Igor Tudor, fiche pas un gros sourire, mais une satisfaction quand même. Et, plus que jamais, il s'impose à Marseille, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Farid, je te rends la parole, justement. Tu voulais pas de Galtier, ouais, bien sûr, t'en as déjà parlé.
Bah oui, mais si tu regardes bien, le joueur le plus dangereux, c'est Ramos, hein. Donc c'est lui qui a été ça a été notre attaquant le plus dangereux.
C'est dire si c'est inquiétant.
Dangereux dans les deux surfaces d'ailleurs.
En même temps, il te concède un péno et dans sa propre surface, c'est pas l'assurance. Hein.
Oui, mais ce qui est grave, c'est que tu vois Etiquet qui rentre et que c'est lui qui fait 1m95, qui s'amuse à mettre des centres, il n'y arrive pas. Donc bravo par contre, respect au président de Reims qui nous l'a vendu une fortune, parce que je savais pas, et j'aimerais connaître la liste des clubs qui le voulaient, ce joueur-là. Bon, ok, pas de problème.
On va 35 millions et 600 de salaire par mois, personne.
Eh ben, tu sais ce qu'on aurait pu faire, Daniel? Il est déjà affûté. Tu remets un Paoletta, je te dis honnêtement, à l'âge où il fera pas pire. C'est pas possible, je crois pas. Non, mais je suis sérieux, en plus.
Bon, là, t'es en colère, on comprend. Donc, t'es un peu excessif. Mais,
franchement, il a rien fait. Qu'on va faire quelque chose, hein.
Non mais là étiquette, franchement c'est pas possible. Tu vois, mais il a pas le niveau du PSG ce joueur. Tu peux retourner le problème dans tous les sens. Et je vais même dire qu'en fait il a handicapé sa carrière même en venant au PSG. Il aurait dû continuer dans un club moyen, continuer à progresser.
Prêté, peut-être.
Là l'année prochaine, quoi qu'il en soit, si le PSG recrute à nouveau, ils recruteront un nouveau neuf, je pense. Et donc, à nouveau, il sera remplaçant. À nouveau, il jouera des bouts de match. Donc, en fait, il va handicaper sa carrière. À part son compte en banque, tout va en prendre un coup. Son compte en banque, lui, non. Avec son contrat et son salaire, je pense que là, il est peinard pour un petit moment.
Vous savez qu'il est prêté pour l'instant, avec option d'achat obligatoire. Hein. Oui, voilà. L'argent, faudra le sortir à la fin de la saison.
Et l'option d'achat obligatoire, elle tient sur limite s'il sait faire ses lacets, quoi.
Bon, Galtier, vas-y, Farid.
Et par contre, non, je compte un peu sur vous parce que pour parler du coach, hein, Lionel aussi, parce qu'on a tendance, j'ai entendu ça, c'était hier, où on disait que oui, c'est encore la faute de Nasser, Galtier ceci, Galtier cela. Je trouve qu'on le protège beaucoup. Je reste convaincu que c'est lui qui fait ses choix d'équipe. Hein, on peut me dire ce qu'on veut. Et quand bien même, de toute manière, à ce rythme-là, il va même pas faire son année prochaine.
Oui, déjà là, il faudrait déjà changer d'entraîneur si tu veux contre le Bayern un sursaut, en fait.
Exactement.
Si tu veux un sursaut contre le Bayern, il faudrait changer d'entraîneur demain.
Ça n'arrivera pas, évidemment.
Ça n'arrivera pas. Mais c'est ce qu'il faudrait faire pour provoquer quelque chose, un sursaut, parce que là, tout le monde a l'air résigné. Un type comme Marquinhos, tu le sens résigné. Marquinhos, il sait, au fond de lui-même, il sait que l'équipe a pas le niveau. Un type comme Mbappé, je l'ai dit maintes fois, et c'est une information, je vous l'assure, dès le mois de septembre, il disait, cette équipe-là ne nous permettra pas d'aller loin en Ligue des Champions. Il avait conscience, lui, des faiblesses de l'équipe.
Qui disait ça?
Daniel, Mbappé. Ça, je l'ai entendu, au même titre que je te rejoins sur Lionel Messi, il faut pas le prolonger. Ou à la rigueur, tu le prolonges, mais tu le mets pas sur le terrain.
Tu le mets à la caisse, à la boutique.
Et puis ça nous va très bien. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu ne refais pas signer. Mais si, c'est encore une grosse connerie qu'on risque de faire. Mais vu qu'on est une entreprise de divertissement.
Voilà. Mais vu que la politique du club, elle se base sur les gamins qui traînent sur Twitter, on n'est pas sorti de l'auberge, moi je te le dis.
Pour ça.
On n'est pas sorti de l'auberge parce que les adorateurs de Neymar, Messi, tout ça, ils pullulent. Ils font du bruit et tous les comptes adorent ces joueurs-là.
Écoute, en tout cas, moi je fais pas partie de cette génération.
Moi non plus. Hein.
Et je suis fier de pas faire en partie parce que c'est pas deux crochets et un petit pont qui vont m'aveugler sur une performance d'un joueur. Si tu regardes le bilan depuis 4-5 ans, effectivement, c'est une catastrophe. Il nous a arnaqué, il a un comportement. Alors hier, j'ai une discussion un peu chaude avec Max qui est adorable, mais effectivement, on parlait de la banderole sur les insultes qui sont effectivement pas normal, mais quand on arrive là, lui, je crois que par son comportement, il a été même plus loin dans l'insulte du club et dans l'insulte des personnes qui aiment le Paris Saint-Germain. Et ça, pour moi, c'est encore au-delà. Donc, en plus, il faut demander à ces personnes-là de venir saluer. Mais tu sais, j'ai même de la peine dans l'évolution de notre jeunesse à travers ces joueurs. Quand je vois même que tu vas au camp des loges, les gars, ils prennent des photos avec des mecs dans leur voiture, qui prennent même pas le temps de sortir de la voiture. Oui. Mais c'est normal, mais ils ont raison, les mecs. Ils nous respectent, ils respectent pas ces personnes-là parce qu'eux-mêmes ne se respectent pas. Donc c'est vrai que je parle déjà comme un vieux, mais effectivement, j'ai la nostalgie des certaines valeurs que je ne retrouve pas. Et puis encore, bravo à Tudor et à Marseille, mais qui s'enflamment pas trop. Ils ont joué contre le pire PSG qu'on ait depuis
Mais tu sais, Farid, c'est étonnant, hein, quand on arrive là, c'est vrai que c'est un peu triste, hein. Moi, j'ai connu ça en tant que sympathisant bordelais, pour ne pas dire plus. Quand on finissait par souhaiter que les Girondins finissent mal pour repartir de 2-0. Là, il y a beaucoup de Parisiens, là, sur Direct Studio qui nous disent, ce soir, ce qui est plus terrible, c'est que je suis presque content. Content qu'on perde pour remettre tout à plat. Sauf que tu ne remettras pas, malheureusement, pas tout à plat dans les prochains mois.
Je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les Parisiens aujourd'hui ont besoin de prendre des leçons comme ça.
Le PSG ne retient pas les leçons.
À force, tu vas les retenir parce que les supporters, les mecs comme Farid et tout ça, les vrais.
C'est ce qu'ils ont dit l'été dernier, tu sais.
Ils vont en avoir marre.
Combien d'articles on a lu sur Nasser Arefi a pris la mesure des erreurs commises par le passé. On repart de zéro. Moins de bling-bling.
Non, ils n'ont pas pris.
Moins de communication.
Ils n'ont pas pris la mesure des erreurs, tout simplement parce qu'ils continuent à faire leur recrutement tel qu'ils le font, avec du bling-bling, avec tout ça. Daniel a parfaitement raison. C'est du bling bling, ça dribble bien. Farid l'a dit aussi, c'est du marketing, c'est du divertissement.
Mais qu'est-ce que ça dribble bien? Il y a même pas la moitié d'un dribble, il y a rien.
Ça veut dire que là,
il y a un petit gars au milieu qui sort 3-4 fois au pressing, qui fait 2-3 passes et qui après sous la pression se fait manger par tout le monde, par Rongier, par Vertu, par Guendouzi, dès qu'ils mettent un taquet, ils le font disparaître.
La seule chose qui peut te ramener vraiment à la réalité, c'est de perdre ce genre de match-là. Parce que jusqu'à maintenant, c'était des matchs
qui étaient moins durs. Tous les ans, ils les perdent en Coupe d'Europe, mais ça change jamais rien.
Non, mais c'est un match. C'est un match. Ils disent, l'année prochaine, c'est Ramiro. Les week-ends, d'accord, il y avait des matchs comme ça, les Parisiens, quand je dis les groupes-là, prendraient quand même la mesure de ce qu'ils sont en train de proposer. C'est-à-dire que c'est indécent. Enfin, pour moi, c'est indécent.
Lionel, tu n'as pas le dernier leader. C'est pas forcément le plus grand exemple, mais le dernier leader qu'on a eu au PSG, c'est Ibra. Aujourd'hui, même un Messi, alors avec toutes les qualités qu'on peut, et puis j'ai saoulé Max aussi là-dessus. Moi, ça me rend même dingue qu'on dise que ce gars-là, il est même meilleur, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Moi, je suis plutôt Diego Maradona. Il n'y a pas photo pour moi, mais ça me regarde. Moi, entre un Maradona et un Messi, il n'y a pas photo à tous les niveaux en termes de leadership, en termes de niaque, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de leader. C'est des starlettes. Ils viennent, ils prennent leur thune, ils se foutent. Il n'y a aucun affect dans le club.
C'est ce que je dis.
Ça, je peux le comprendre, c'est général. Mais il n'y a pas de leader. Donc, je pense que dans le profil, moi, t'imagines, j'arrive à être attaché à un gars comme Danilo. Danilo, c'est un soldat. Il n'est pas extraordinaire techniquement, mais c'est un gars qui donne tout ce qu'il peut donner. Eh ben, tu vois, lui, tu le pardonnes limite. Bon. Je suis même en colère quand tu sors ce gars-là et que tu me laisses Neymar. Eh ben, tu sais, la faute de tout ça aussi, c'est la faute du coach. Le coach ne fait rien. Donc, il a l'image de tout aussi, ce coach. Non. Il n'est pas bon. Il nous enfume avec ses côtés. Je vous sors des petites blagues. Vous êtes mignons. Je rigole un peu avec la presse. Il nous enfume. Bon, en tout cas, il enfume Farid. Les gens, mais moi, il ne m'enfume pas.
Bon, le message est passé, cher Farid. Tu reviens quand tu veux, bien sûr, sur Farid. RMC, dans l'after, pour évoquer la suite de la saison du Paris Saint-Germain. Bon courage à toi et également. qu'est-ce que je voulais vous dire, les gars? Tiens, c'est marrant, sur Direct Studio, il y a le G qui nous dit Kolo Muani à zéro est parti à l'Eintracht Francfort et Kitike arrive à 35 millions d'euros. Par exemple, c'est des idées, tu vois. Forcément, c'est plus facile
dans
de dire après.
Zones, dans tout,
mais Kolo Muani aurait pu, effectivement,
on va attendre
pour d'autres clubs que le PSG en Ligue 1.
On va attendre. On va attendre le Bayern pour faire le bilan annuel du PSG, des erreurs, de qui on mettrait, de qui on n'a pas recruté, de qui a fait. Ce soir, il y a eu un grand match en France. Et ça, c'est important parce que je crois que ça devait être lundi. Peut-être quand on était à la prison, je ne sais plus. Un soir, je disais, il y a quand même très longtemps pendant des années, jamais j'aurais pu penser dire autant de bien du football français et de nos clubs. Parce que nos clubs, ils arrivent à produire du jeu et surtout de l'intensité et une nouvelle mentalité. Et ça, chaque semaine, on le met en avant. Dimanche, on a eu un bon match. Alors, attention, hein.
D'accord.
Souvent, alors, Marseille n'est pas seul. Marseille est un acteur majeur de ce mouvement qu'on voit cette année d'équipes qui sont capables de jouer tout ça.
Mais t'as les Niçois qui sont en train de revenir.
Exactement.
T'as des équipes qui sont.
L'opposition qu'on a eue dimanche soir, elle était très intéressante. Lens, on en parle depuis longtemps. On répète toutes les semaines la même chose, mais je suis content que toutes les semaines on constate qu'il y a cette évolution, que cette évolution, elle existe. Ce qui est fou, c'est que ça devrait servir le PSG, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et en fait,
ça va le servir.
Et en fait, c'est en train
de servir, pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Ça va le servir.
Pour l'instant, c'est en train de ringardiser le PSG. Ça devrait le servir parce que ça devrait forcer le PSG à bouger et à se rendre compte qu'il y a dans cette équipe des joueurs qui ne sont plus adaptés au football moderne, fait d'intensité, de course et d'efforts collectifs. On est encore dans un football au PSG avec, comme on l'a beaucoup de fois répété, 3-4 individualités dont on attend un geste majeur et un milieu de terrain qui soi-disant organise et
on est même
et
distribue
alors qu'il ne fait plus rien.
Du pur football. On est au-delà du recrutement, on est dans le recrutement marketing, zéro
recrutement au PSG depuis des années. Tous les mecs qui viennent se cassent la figure chez nous, n'arrivent plus du tout à exprimer leur qualité.
C'est vrai, ça c'est une vraie question. Quel est le dernier joueur recruté par le PSG qui a apporté une plus-value au PSG?
Ah, les plus-values,
De
mémoire, Ibra.
Non, le dernier joueur, il est arrivé.
Mbappé.
Il s'est imposé.
Mbappé.
2017.
Ouais, Mbappé, ouais. Mbappé, Ibra.
Depuis 6 ans,
vous êtes sûr, les gars?
Mbappé, ouais, alors attends.
Les deux qui me viennent comme ça, vite fait.
Ibra, c'est qu'il arrive en 2012, hein. Donc, en fait, tu sais ce que tu dis est intéressant, parce qu'en fait.
Cavani.
Mais alors, justement, en fait.
Cavani.
En fait, Lionel, ceux qui ont apporté quelque chose au PSG sont ceux de la première génération.
Ouais.
Donc,
ils sont venus sur Leonardo beaucoup.
Ceux qui sont arrivés à l'époque, qui ont apporté quelque chose, Verratti évidemment, même s'il a décliné depuis, mais quand il arrive, il y a quelque chose. Cavani, Ibra,
à l'époque,
Thiago Motta, tous les mecs qui sont arrivés dans cette génération ont fait grandir le PSG, ont amené le PSG à être un top 8 européen. Mais après, ça a décliné de top 8, t'es passé à top 16, même s'il y a eu deux bonnes sessions sur les dernières années, mais t'as régressé. Et depuis cette vague-là, tous ceux qui sont arrivés après, il n'y a plus de joueurs qui ont apporté un vrai truc. On fait une pause, les gars.
On revient dans un instant avec toi, Daniel, avec toi, Lionel également.
Non, on parle pas de l'OM.
On va parler de. On a parlé de Marseille un peu.
Pas beaucoup.
On va reparler cette semaine, t'inquiète pas. On en reparlera. Reste avec nous. On va parler des autres matchs de Coupe de France également ce soir. Vous pouvez nous appeler au 32-16, supporter lyonnais, supporter lillois notamment. On parlera également très rapidement de Nantes qualifié à Angers, par exemple, et d'autres qualifiés de la soirée pour les quarts de finale. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 12h30.
L'After Foot.
RMC.
Jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo et Lionel Charbonnier, on ensemble jusqu'à minuit et demi. Puis je vous rappelle que la soirée va s'étirer jusqu'à 1h30 du matin. Le retour de la libre antenne que vous avez adoré pendant la Coupe du Monde avec Nico Villas et Thibaut Jean-Grand. Alors, si tu voulais parler de Marseille un peu plus, on va faire une évaluation, messieurs. Ah. C'est parti. Je vais accueillir Ryan également, supporter marseillais au 32-16. Salut Ryan.
Salut, bonsoir à tous.
Salut,
bonsoir.
Tu vas participer avec nous.
Salut, comme Ryan.
Comment ?
Stéphane Guiche. Bonsoir, chers citoyens, comme dit le très célèbre Stéphane Guiche.
Exactement. tu vas participer avec nous à l'évaluation de ce match. Quel est votre taulier ce soir, les gars, de la rencontre, hein?
C'est ce que je disais au standard un petit peu avant. Non. Sanchez. Ah. Et surtout ce que je disais à la mi-temps, moi, j'ai aucun complexe à dire. C'est top 3 Ligue 1 actuelle. Des meilleurs joueurs, Sanchez.
Qui
Alexis Sanchez.
Je vais te dire même mieux. Dans ce match-là, Alexis Sanchez. Tu vois, Alexis Sanchez, franchement, quand il est arrivé à l'OM, j'étais extrêmement sceptique parce que pour moi, il avait tellement donné dans sa carrière. J'ai adoré ce joueur que je voyais pas comment il pouvait retrouver de la flamme. Tu vois, quand t'as autant donné que lui. Ce qu'il fait à l'OM, c'est extraordinaire. Et ce soir, il y avait également, on parlait des joueurs qui sont passés de l'autre côté de la colline. Ben lui, on pensait qu'il était passé. Hein. Et ben face à lui, il y avait Neymar, Messi, qui sont un peu de sa génération. Ils se sont croisés. Ils ont fait aussi des très grands clubs. Sanchez a fait des très grands clubs. Il a eu une très belle carrière. Et ben ce soir, lui, il a fait de l'ombre aux deux autres.
Mais en plus, tu sais, Sanchez a toujours été dans l'ombre dans sa carrière. Il a jamais eu ce rôle de leader. Tu vois. Donc notamment dans son poste à l'Inter, dans son poste au Barça, il était sous l'ombre de Messi. Et là, il a ce côté leader. Et de même que ce que je disais, des buts qu'il met et de l'intensité.
Franchement, il rate rien. Toutes ses prises de balle, voilà. Son importance dans le jeu, il est précieux.
Quelque chose à l'équipe, tu vois. À chaque fois, moi, je suis au Virage Nord à Marseille. Je suis un abonné. Je le vois à chaque fois. Tu sais, il lâche des regards à ces deux joueurs de derrière, notamment Under et tout. C'est le premier à initier le pressing. C'est le premier. Mmh. Il te fait des courses des fois. Non, mais c'est droit au but. Comme disait la dernière fois un collègue à moi, il me disait, non mais c'est putain, dommage qu'on l'a pas eu à 27-26, parce que honnêtement, tu vas en profiter et tu veux l'avoir. C'est un joueur typique de l'OM.
On n'a pas parlé ce soir de Malinovski, hein, qui avait marqué ce week-end,
qui remarque. Une frappe. Je trouve que c'est la bonne pioche.
C'est une énorme frappe.
Malinovski, mais lui, il a toujours une très grosse frappe. En trois jours, on voit deux grosses frappes. Franchement, il est bon ce joueur.
En plus, pied gauche comme ça, tu vois sa technique,
bah après,
tu vois le mec intelligent.
Bon joueur,
il se place tout le temps là où il, si tu regardes toutes les actions, tout à chaque fois qu'il y a un débordement et tout, il fait tout le temps appel contre appel. Il revient se placer là où il a marqué aujourd'hui avec sa frappe de mule au 20 mètres plein axe. C'est son jardin. Il est là. Va falloir que les adversaires ils fassent quelque chose à chaque fois qu'il va faire ce genre d'appel contre appel comme ça. Il va falloir le prendre.
Je suis un petit peu réticent, moi. Ouais.
Moi, au départ, un tout petit peu, parce que je me suis dit.
C'est un bout de course à la Talenta, on n'en voulait plus à la Talenta.
J'ai l'impression qu'il. Mais ouais, mais là, honnêtement, je pense que c'est une vraie bonne pioche. Il est intelligent, il distribue bien le jeu, il est altruiste et en même temps, il sait finir. Donc, franchement, je suis certain qu'avec l'OM, avec Sanchez qui a devant, avec les gens qui a autour, je suis certain qu'il est très 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 complémentaire. Et moi, si je disais Rongier, tu sais pourquoi je disais Rongier? Je suis entièrement d'accord avec toi pour Alexis Sanchez. Ça fait 3-4 fois qu'on le note, et c'est pour ça que je l'ai pas dit ce soir. J'ai dit Rongier tout simplement parce que au début du match, on lui a fait jouer un rôle complètement hybride où on Absolument. Lui demandait d'être dans Absolument. Le milieu. Et de revenir se caler entre les deux axiaux et puis d'aller rechercher Vitinha devant. On l'a mis dans une épreuve où il devait s'adapter et il a eu cette intelligence de s'adapter et en plus il a été rayonnant dans la récupération, dans la première passe, le mec il a été super dans un rôle qu'il ne connaissait pas de base et c'est pour ça que je disais Rongier aujourd'hui parce que au niveau de l'adaptation il a pas fallu deux heures parce que bon, son intelligence et son QI football.
Je te rends la parole Ryan dans un instant. Tu dors Daniel, tu étais un petit peu raillé quand tu as annoncé récemment dans l'after que Rongier était supérieur à Verratti.
Oui.
J'exhume une déclaration de Sergio Conceição à Nantes, 2017. Il était jeune, hein, Rongier à l'époque, hein, c'était il y a 6 ans quand même, hein, qui dit Rongier est capable de jouer n'importe où dans 2 ou 3 ans parce qu'il pense plus vite que tout le monde. Il vaut à l'heure actuelle Marco Verratti. Dès à 7 ans. Bon, il le dit à 7 ans. Bon, c'est ça aussi le dit. Qu'est-ce que tu veux? Après, c'est son joueur aussi, tu vois. C'est aussi un moyen de le motiver, de lui donner confiance.
Mais quand ça c'était il y a 7 ans, donc maintenant, il est supérieur à Verratti.
Ah bah, oui, mais il avait raison.
Ça, il y a pas le
sur l'évolution de Rongier, il avait raison.
Pour moi, il n'y a pas le moindre problème sur là-dessus. Je le sais depuis longtemps. Je le dis. Je le voyais à Nantes. Je l'ai vu évoluer. La seule question qui se posait pour moi à l'époque, et Conseil Sao est un entraîneur éminemment respectable, que j'aime beaucoup, c'était, et c'est souvent le cas, c'est le passage. Nantes, par exemple, il y avait un autre joueur à ce moment-là à Nantes que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Léo Dubois.
Bien sûr.
Ben lui, le passage, autre club, autre contexte, il l'a pas réussi, alors qu'il avait énormément de qualité. Rongier, la question qui se posait, c'était changement de contexte, tu vas à l'OM, t'es plus forcément titulaire, t'es plus forcément un crack, et puis comme il est un peu introverti, tu vois, c'est pas un mec qui en,
plus la même
dans la personnalité, qui en rajoute des tonnes et tout, il dit, il va lui falloir du temps, et à Marseille, on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'au début, il s'est pas tout de suite imposé, mais il y est arrivé. Et quand il parle, tu sens que c'est un gars qui est intelligent. Quand il donne des interviews, tu vois qu'il est au-dessus, te dis, ce gars-là, j'ai vite compris qu'il allait y arriver. Parce que il est généreux, parce qu'il est habile techniquement. C'est pas du tout un, c'est pas du tout un branque balle au pied, loin de là. Il court énormément.
Et il a pas l'élégance d'un Verratti.
En fait,
il a pas les fulgurances de Verratti.
Il ne sait pas ce qu'il ne sait pas faire et il n'est pas en dessous de son niveau.
Bien sûr.
Voilà. Après, effectivement, qu'il a pas les fulgurances de Verratti, ça, évidemment. Il a pas ça.
Mais on lui demande pas.
Sauf qu'aujourd'hui, Verratti, il ne lui reste plus que ça. C'est ça son gros problème. Alors que Rongier, il a aujourd'hui toute la palette sur 90 minutes. Ce soir, Rongier, il a pas exactement joué au milieu. Hein. Rongier, il a quasiment joué libéro ce soir.
Plus en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, il jouait. Il était en individuel sur Vitinha qui venait. Vitinha qui s'intégrait.
Il jouait quasiment défenseur dans l'axe. Il avait le numéro 5 parce que c'était quasiment ça qu'il jouait.
Compliqué. Hein.
Et il est capable de s'adapter à plein de postes. On l'a vu jouer latéral ou avec intelligence.
Un mot de Matteo Guendouzi. Je te rends la parole dans un instant.
Lui aussi a été énorme ce soir. Il y a pas besoin d'un La photo est là et elle parle d'elle-même.
Il y a deux petites questions. La première, c'est votre 31e match de la saison. On a l'impression que vous avez sorti votre plus grand match au bon moment. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
31e match de la saison. On a fait de très bons matchs aussi dans le passé, même si il n'y a pas eu forcément des résultats, parce que je pense notamment au match contre Tottenham aussi, on était très bons sur la première mi-temps et malheureusement sur la deuxième un peu moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a fait un match très solide. C'était sûrement l'un des meilleurs matchs depuis le début de saison. Et quand il y a les résultats qui suivent, bien évidemment, ça met en valeur la performance de ce soir.
Voilà, Guendouzi, qu'on écoutait en direct là en zone d'interview au micro notamment de Florent Germain. Ryan, quel est ton boulet ce soir? Oui. Bon, c'est pas toi que je te posais la question, t'es Marseillais, donc c'est compliqué.
Mon quoi?
Ton boulet ce soir du match. Sur le match, t'as le droit de participer à ça.
L'arbitre. Alors, d'ailleurs, je suis content qu'on gagne, hein, parce que si on aurait perdu, on aurait fait nul, on m'aurait traité de menteur, mais monsieur Le Texier a été exécrable.
Ah bon?
Il a laissé jouer, je trouve.
Il a été bien. Pourquoi?
C'était une faute. Mais plusieurs fois, notamment sur le côté Marquinhos, à un moment quand il pousse, de tête, de ce que j'ai. Et plusieurs fois, je vais pas dire qu'il avantageait Paris, mais il laissait trop jouer, justement. Beaucoup de zeltes, et moi, il aurait fallu sortir les cartons plus tôt. Et même le stade, hein, je sais pas si vous l'avez senti, mais le stade, deux, trois fois, a pété un câble. Et ça s'est senti sur la fin, parce que sur la fin, on a même pas célébré, on a insulté l'arbitre, pour vous dire. Donc, moi j'ai pas aimé Le Texier. Pourtant, je suis pas du genre à râler après l'arbitre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve encore la victoire de l'OM encore plus belle que prévu. Mais le boulet, j'écoute pas mal l'after et j'écoutais Daniel râler sur Ramos. Bon, il marque, il a de la chance pour se frapper, mais c'est vraiment une catastrophe. Hein. Je sais pas ce qu'il est devenu entre temps, mais waouh.
Bah, il a juste vieilli, quoi. Le problème, c'est que le PSG, c'est en train de se transformer en EHPAD.
Le PSG,
c'est Orpea.
Moi pour le
Pour le boulet Lionel.
Moi j'irai plutôt sur Vitinha. Pas sur sa personne, mais sur son mode d'exploitation.
J'ai envie de dire le pauvre,
c'est parce qu'il est pas mis, c'est pas lui que je veux incriminer, mais c'est son rôle qu'on lui demande de jouer alors que c'est pas du tout dans ses capacités. Quand je vois Messi reculer dans le milieu et que c'est à Vitinha qui est plus 6-8 qui va en poste de numéro 9 alors qu'il n'a aucun il a rien, il a pas la panoplie d'un 9, il a rien pour finir, il a rien de
il était seul dans la surface de réparation.
on lui fait jouer un rôle. Ouais. Alors, c'est pas lui que je vais incriminer, mais dans son rôle, franchement, il a servi à rien, pour moi.
Ryan, je te remercie. Tu reviens quand tu veux. Tu connais le chemin. Tu fais le 32-16 et tu viens discuter, débattre avec nous sur RMC. Bonne soirée à toi. À très vite.
Bonne soirée à vous, merci.
Bonne soirée à toi, à très bientôt. On fait une pause très courte, les gars. On parle de la qualification de Lyon au tir au but face à Lille. On écoutera Laurent Blanc, notamment, qui est tout à l'heure en conférence de presse. Reste avec nous, c'est l'after, minuit 12. On prolonge jusqu'à minuit et demi ce soir.
RMC. Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Nicolas Jamin.
L'after avec Daniel Riulo et Lionel Charbonnier sur RMC, minuit 13. Parlons maintenant d'un autre qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais, les gars. L'Olympique Lyonnais, oui. Qui est passé au tir au but face à Lille après avoir mené 2-0. Cherki et Lacazette, dans l'autre sens, Lacazette et Cherki.
Marseille, Lyon et le vainqueur de Lorient-Lens demain vont devenir les favoris de cette Coupe de France.
Certainement.
Ouais.
Certainement. Un truc comme ça. T'as raison. Ouais. Tu mets Lyon en favori quand même. Parce que la question est, qu'avez-vous pensé de Lyon ce soir face à Lille?
Ils s'en sortent très bien. En fait, ils vont tellement le vouloir que forcément, c'est une équipe sur laquelle tu vas compter. Après, évidemment, je vois Lionel qui dodeline depuis tout à l'heure et je le rejoins, je suis d'accord avec lui. Quand tu vois leur prestation ce soir, c'est... Tu te demandes si c'est pas Lille qui offre presque la victoire entre la boulette du début de match et l'inefficacité offensive devant
sur le deuxième
qui
but,
caractérise les Lillois en permanence sur le deuxième but évidemment. Tu te dis que les Lillois doivent gagner ce match, c'est vrai.
C'est le pauvre Nioro quoi en défense centrale.
C'est ça qui m'embête parce que je sais pas si ça va leur faire du bien de gagner au penalty quand tu menais 2-0, tu te fais remonter 2-2 et que en fin de compte, tu gagnes au pénalty, tu t'en sors bien. Parce que je sais pas si c'est pas encore ce Lyon, c'est la énième fois depuis trois ans, que Lyon gagne la première mi-temps, que ça se passe tout bien. T'as l'impression qu'il maîtrise et puis tout d'un coup, Lyon s'écroule, Lyon se fait marcher dessus.
Très vite, j'ai pas senti beaucoup de maîtrise parce que le deuxième but, c'est un cadeau.
Non, mais rapidement, les Lillois ont pris le jeu. Ah oui, du score, c'est
mais
tout.
Très vite, les Lillois ont pris le jeu.
Parce que même les buts, c'est pas des buts construits, c'est un bon. Voilà, oui, y a des erreurs adverses. Après, il faut les provoquer, les erreurs.
Ils se sont fait promener par les Lillois. Mais le problème, c'est que.
Mais encore, je pense que les vieux démons peuvent revenir dans la tête des Lyonnais.
Ils vont pas disparaître, parce qu'ils ont énormément de carences dans le jeu.
Je suis pas certain que cette victoire au péno fasse vraiment du bien. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience de du football qui n'est pas constant? Parce que autant il y a la semaine, il y a trois jours, autant j'ai vu un bon Lyon contre Brest, c'était pas si mal que ça, mais ça manquait de réalisme. Là, la semaine dernière, c'était beaucoup mieux. Il y a eu du réalisme. Tu te dis bon allez, ok. Et puis tout d'un coup, il y a plus rien. Et on retombe dans les travers des Lyonnais. Tiens. Et moi, ça me fait peur. Pour Lyon, ça me fait très peur.
Écoute Laurent Blanc, justement, quel diagnostic il fait après cette qualification pour le quart de finale de son effectif?
Je pense que cette année, Lyon ne fera jamais rien facilement. Donc voilà, nous, on joue avec nos qualités, nos défauts, notre jeunesse aussi. Mais on a une certaine forme d'insouciance et ça peut aussi jouer en notre faveur. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que les garçons ont tout donné. Je leur avais dit en début de match, donnez tout. Après, le résultat, on le connaît pas. Mais si vous avez tout donné, vous n'aurez aucun regret. Et donc là, ils se sont aperçus qu'en donnant tout, ça peut procurer des satisfactions. Et je pense que ce soit des matchs de coupe ou des matchs de championnat, ça peut être aussi le cas.
Bon, en clair, n'attendez rien d'incroyable de nous cette saison. C'est ce que dit Laurent Blanc. Donc, ouais, mais on va essayer de faire
contents,
le mieux possible.
Ils vont passer à l'arrache, au péno. Ouais. Et puis je te dis, ils vont sur des matchs couperets maintenant en Coupe de France, ils vont tenter de sauver leur saison comme ça. Voilà, on a bien compris que c'était ça. Aujourd'hui, pendant une partie du match, au début, tu voyais que la lumière ne pouvait venir que de Cherki, qui bougeait beaucoup, mais qui, au fil du match, a un petit peu disparu quand même. Mais ça reste le joueur qui, en ce moment, est un peu créateur dans le jeu à l'OL. Ouais.
D'accord.
Lacazette, si tu laisses traîner un ballon, tu sais qu'il va être là. Pour le reste, c'est homogène dans le moyen as, quoi. C'est pas génial. Et il faut parler de Lille, parce que... Alors Lille, cette équipe, j'avais beaucoup d'affection pour elle et pour Fonseca. Ce soir, elle m'a saoulé. Vraiment, pour moi, c'était ce soir un virage. C'est pas possible de dominer le match, de créer autant d'occasions, d'amener le ballon aussi facilement aux abords de la surface et derrière de faire toujours un mauvais choix.
Ça, c'est pas la faute à Fonseca. La finition, tu ne peux pas en vouloir. Le plus dur, c'est où récupérer et après créer les occasions.
J'ai toujours beaucoup d'admiration pour ce qu'il propose, parce qu'honnêtement, le jeu, le mouvement de cette équipe,
le réalisme,
c'est très bon. Mais les joueurs, des fois, tu dis, les gars, vous faites exprès ou comment ça se passe? C'est pas vrai. Quand tu dois tirer, tu tires pas. Quand tu dois faire la passe, tu fais pas la passe. Tous vos mouvements sont excellents pour amener le ballon dans la surface. Et la dernière action qui doit faire le 3-2, la magnifique passe en profondeur sur Bayo qui s'en mêle les pieds, qui sait plus quoi faire. Là, j'étais saoulé. J'ai dit, c'est bon, les gars, on a l'impression que vous faites exprès. Vous gâchez toute la beauté de votre jeu, le côté attractif de votre jeu, vous le gâchez avec des prises de décision minables. Ils m'ont saoulé.
C'est frustrant. Moi, je l'ai vécu ça dans ma petite carrière d'entraîneur. Je l'ai vécu et je peux te dire que c'est frustrant quand tu as toutes ces occasions. T'arrives même à avoir des pénalties des fois et les pénalties tu les mets pas ou t'arrives et ça arrive. Toi, ça t'a saoulé, mais ça peut aussi saouler les joueurs. Parce que à un moment donné, les joueurs peuvent perdre confiance. Ils se disent, on n'y arrivera pas. Et donc là, il faut faire très attention pour les Lillois, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu et en tant qu'entraîneur, et je l'ai vécu aussi. Mon groupe l'a vécu, et je peux te dire que j'ai pas trouvé les mots personnellement pour passer au-dessus de tout ça, pour rebooster les joueurs. Mais non, les gars, ça va venir ou quoi? T'essaies de changer des choses, mais la finition, quand tu l'as pas, c'est que les mecs doutent, et quand ils doutent, t'as plus les victoires. Donc faut faire attention.
Tiens, j'accueille Newfell, le 32-16 supporter de l'OL. Salut Newfell.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue dans l'After.
Merci de me recevoir.
Bon, alors, raconte-nous un peu comment t'as vécu ce huitième de finale.
Content d'être qualifié, ça c'est certain. Après, dans tout ce qui concerne le reste, il n'y avait absolument rien. On fait une bonne entame de match, on mène 2-0 assez logiquement, et puis après, au bout de 25 minutes, il ne se passe plus rien. Lille est largement supérieur, il y a 4 niveaux d'écart entre les équipes. Quand on voit la maîtrise collective, quand on voit la qualité technique, les déplacements, etc. Enfin, nous, on est incapable de faire ça. Donc, je retiens la qualif, parce qu'on a ça au bout, mais il n'y a rien d'autre à retenir finalement, et c'est finalement assez inquiétant en vérité.
Est-ce que Newfell, tu t'es retombé un petit peu dans je sais pas si t'as eu peur ces derniers temps, mais ces dernières années où Lyon dominait, ne serait-ce qu'une première mi-temps, où était très bon sur un match et puis après s'écrouler complètement, soit en deuxième mi-temps, soit le match d'après. Est-ce que t'as ressenti ça? T'as dit oh là là, ça malgré le changement d'entraîneur, malgré tout ça, on reste là-dedans. Est-ce que tu penses à ça toi en tant que supporter?
Mais en fait, cette saison, et c'est même un peu le cas aussi la saison dernière, on n'est plus trop là-dedans. Où on était sur courant alternatif, on était plutôt sur courant rien du tout. Ou alors courant comme aujourd'hui, 20-25 minutes. Aujourd'hui, on est plus à espérer qu'il se passe un petit peu quelque chose, mais on n'est plus du tout sur courant alternatif. On pouvait alterner le très bon et le pas bon. Là, depuis un an et demi, on touche beaucoup plus le pas bon que un petit peu des deux. Donc
là, ces deux derniers matchs, c'était meilleur quand même.
Oui, bien sûr, mais bon, c'était contre Ajaccio et Troyes, donc qu'est-ce qu'on peut en retirer véritablement? Pas grand-chose.
Ouais, mais des fois, tu perdais. Il y a l'année dernière ou il y a deux ans, tu perdais contre ces équipes-là.
Même cette saison, c'est arrivé. Bon, cinquième match sans défaite, hein, quand même, Newfell pour consécutif pour l'Olympique Lyonnais. Bon, c'est peut-être le début de quelque chose, même si Laurent Blanc ne semble pas trop y croire non plus. Et il fataliste depuis qu'il est arrivé quasiment, Laurent Blanc. Voilà. Pourtant, il avait dit, je vais avoir un mois et demi pendant la Coupe du Monde pour régénérer cet effectif que j'ai trouvé dans un état déplorable physiquement. Attaqué à son prédécesseur. Là, il a pris la mesure de son groupe et il n'est pas hyper ambitieux. On verra la saison prochaine. Bon, rien n'est terminé pour Lyon en Coupe de France. Je rappelle quand même les qualifiés. Hein. Tu parlais tout à l'heure des favoris, Daniel. Nantes est là aussi, avec un but de Mollet. Magnifique frappe de Florent Mollet. Rodez est là. Voilà. Grenoble est encore là dans cette Coupe de France. Qualifié à Vierzon, dernier club amateur. Toulouse a battu le Reims de Will Steele. Première défaite.
Ah oui, Will Smith, il a perdu son premier match. Ouais. Castagnier.
Il paraît, j'ai pas vu le match. Il paraît qu'ils se sont fait bouffer par les Toulousains.
Et voilà encore une belle équipe, Toulouse.
Toulouse, j'ai toujours dit,
je maintiens, c'est une belle équipe.
Je l'ai écouté, j'étais sur la route et. Tout paraît qu'ils ont joué très très bien.
Toulouse qualifié, donc Marseille qualifié, le tirage au sort sera demain, il reste encore Lorient-Lens à jouer. Juste pour revenir sur Lille, les gars, Zegrova, un joueur qu'on avait vu intéressant la saison dernière lorsqu'il était arrivé à Lille, qui est en train de devenir un joueur plus qu'intéressant, qui devient efficace également.
Non, il est bon, après parfois c'est vrai qu'il y a un peu de déchets, il y a des décisions qui ne sont pas toujours opportunes.
Bon, Newfell, tu veux rajouter quelque chose?
que bah, si je pouvais avoir quelques joueurs lillois dans l'effectif lyonnais, je dis pas non. Hein, si je peux avoir André Gomes, si je peux avoir Jonathan David et Zegrova, justement, je dis pas non.
Bon, écoute, la demande est passée. Je suis pas sûr qu'elle soit entendue. Ouais, bonne soirée à toi, Anoufel.
Merci.
Tu reviens quand tu veux dans l'after, les gars. Tiens, je découvre que Kurzawa a qualifié Fulham aujourd'hui en cup. C'était face à Sunderland 3-2. Il marque le but la qualification pour Fulham. Lévin Kurzawa prêté par le Paris Saint-Germain. Messieurs, précision également. Tiens, autre info. Petite surprise à Monaco, Paul Michel, directeur sportif de l'AS Monaco, va quitter le club l'été prochain. Il a repoussé l'offre de prolongation de ses dirigeants. Il était arrivé au bout de sa mission selon la direction du club. 2 ans et demi à l'ASM, il aura quand même la charge du mercato estival. Et après, il partira.
Ah, ils lui ont demandé de prolonger. Il a...
Oui, c'est lui. D'accord. Il estime qu'il est venu pour une mission. Il y avait 77 joueurs sous contrat à Monaco. Il a fait le tri et désormais,
pas facile, hein. Franchement.
Il estime que sa mission est remplie. Il ira voir ailleurs. Il y aura pas mal de propositions a priori en Angleterre selon nos camarades de l'équipe. Les gars, un mot de la Coupe de France peut-être demain. Lorient Lens, match
ouais.
intéressant à suivre.
Bah ouais. Très intéressant. Je pense que ce sera bien. Un nouveau gros match. On en a eu deux ce soir. Enfin, les autres, je suis désolé, j'ai pas pu voir. Mais demain, je m'attends également à une belle partie entre deux de ces fameux clubs qui jouent et qui proposent du spectacle dans notre.
Ouais, Lorient va beaucoup mieux là. Ils ont eu un petit passage à vide et ils vont beaucoup mieux maintenant.
Marquinhos tient une déclaration que je lis à l'instant. Oui. Voilà ce que dit Marquinhos. On savait qu'il ferait un gros pressing. On n'a pas réussi à sauter leur ligne. On a fait quelques erreurs. C'est une défaite qui fait mal car c'est un match de coupe contre notre grand adversaire. On voulait revenir à Paris avec la victoire.
On sait qu'il faut s'améliorer. Mais on est au mois de février. À quel moment tu t'améliores?
Il faut faire mieux. Continuer à travailler, aller de l'avant. Il nous a manqué des choses. C'est le moment de fermer notre bouche. Voilà. Dit Marquinhos.
Ah oui?
Oui.
Eh bien.
Fermer la bouche.
Oui. Non, ça serait plutôt le moment de faire fermer celle des autres.
Oui, ou de l'ouvrir vraiment aussi, tu vois. Ouais. Et de secouer le cocotier peut-être.
Tu gagnes et tu fais fermer celle des... Voilà.
Mais tu sens un Marquinhos qui est un petit peu résigné dans son comportement.
Ce soir, honnêtement, je pense qu'il savait et je pense qu'ils étaient motivés. Parce que franchement, le PSG contre l'OM... N'a jamais fait preuve de suffisance. Ils ont toujours fait des gros matchs, le Paris contre l'OM.
Non, quand,
ils
bon match,
quand ils n'ont pas été bons contre l'OM, c'est que vraiment l'OM était et élevait son niveau. Sinon, eux, ils n'ont jamais eu de suffisance ou ils n'ont jamais pris match à la légère. Donc, s'ils ont perdu là, c'est vraiment qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Et donc, ça veut dire que c'est très inquiétant.
Bon, sachez également qu'en Première Ligue, match en retard dès la 8e journée, Manchester United était mené 2-0 par Leeds. A finalement arraché le nul grâce à Rashford et Sancho. Sachez également que le Real Madrid s'est qualifié pour la finale très importante du Mondial des clubs en battant Al Ahly, équipe du Caire, 4-1.
Et Vinicius, qui suit cette compétition,
Valverde, je sais pas.
Il y a vraiment des gens qui suivent.
J'ai vu que Modric a raté un péno.
Rodrigo arriba son marqué.
Mais tu sais que dans le nouveau football, c'est pas un match et c'est pas une compète pour nous en vrai. C'est pas nous, on n'est pas. Bah, tu sais, c'est comme le public ou les émissions de télé qui ont des cibles.
On n'est pas la cible.
Nous, on n'est pas la cible. La cible, c'est.
Quoi la cible?
Bah, c'est là où ça joue, cette région du Golfe, notamment. C'est la cible, la clientèle visée, c'est ça. C'est pas nous. Donc, il faut pas s'inquiéter si on suit pas, si ça nous intéresse pas.
Bon.
Et donc, à un moment, j'ai voulu m'inquiéter. Tu vois, j'ai dit, merde, putain, il y a Mondial des clubs, tout. Je regarde pas.
Un titre gonflé, tu vois. Le Mondial des clubs.
J'étais inquiet,
quand même.
Toi et tout. Mais j'ai compris qu'on n'était pas du tout la cible en marketing.
Bah non.
C'est pas nous.
Ce sera.
N'ayez pas honte de pas suivre cette compète.
Tu regarderas pas la finale du Mondial des clubs. Ce sera vendredi soir, à 20h, à l'Hilal, club de Riyad, face au Real Madrid. Voilà messieurs pour l'after, c'est terminé. Merci à vous. Dans un instant, la Libre Antenne est de retour, c'est un événement. On a reçu des millions de mails, de lettres postales également pour réclamer le retour de la Libre Antenne. De Thibaut et Nicolas.
Plein de gonzesses.
Au précis, des milliards.
Des milliards.
Beaucoup de femmes.
Plein de femmes.
Oui.
On m'a dit Thibaut.
Bah t'as vu Nico.
On a exhumé le passé ardeur de Thibaut.
Oui.
Ah bon.
Oui. Mais tout le monde n'est pas au courant.
T'as bossé avec Welbeck aussi ou pas?
Tu vas me raconter ça pendant que je t'écouterai.
Voilà, tu reprends la voiture.
Je reprends la voiture.
N'hésite pas, nous appelle pas, tu écoutes. 32-16, on est en direct jusqu'à 1h30 ce soir, soirée exceptionnelle. Et vous le savez, hein, c'est comme
pour la Coupe du Monde.
On compte sur vous, le 32-16, vous nous appelez avec Nico Villas. On vous attend, il y a des cadeaux à vous faire gagner. Ça démarre tout de suite, il n'y a pas de pub, c'est maintenant les gars, la Libre Antenne.
RMC jusqu'à 1h30,
l'After Foot.